Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Washington, la voix d'Amérique, un micro dédié avec vous pour cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord, Lomé vient d'accueillir un vaste forum sur les meilleures pratiques économiques en Afrique.
Pour capitaliser les acquis, la rencontre d'échange Africa Best Practice Forum est initiée. Le thème « Réformer les économies africaines pour une meilleure accélération de la croissance » a été l'axe principal de cette première édition.
On suivra le reportage de Kai Lawson. Le secteur privé en Guinée se mobilise pour tenter d'appuyer la relance.
Nous, on est en train de sillonner tout le pays, on est en train de couvrir partout, puisque Ebola n'a pas de frontières. Nous aussi, on ne va pas faire de frontières. En tant qu'organisation crédible et présente en Afrique de l'Ouest, nous allons faire des efforts, mais nous demandons un appui sérieux parce que les activités ne marchent pas.
Chérif Mohamed Abdallah, président du groupe organisé des hommes d'affaires, le GOA, nous en dira plus. Et puis, les smartphones et tablettes africains conçus et fabriqués par des Africains pour des Africains, eh bien, ce n'est plus un rêve, mais une réalité au Mali, en Côte d'Ivoire, en République du Congo. La capitale togolaise, Lomé, vient d'accueillir un vaste forum sur les meilleures pratiques économiques. Africa Best Practices Forum a rassemblé près de 200 hauts responsables africains et internationaux pour discuter des réformes et de la croissance en Afrique. Je vous propose de suivre le reportage à Lomé de notre correspondante Kai Lawson.
En 2002, le magazine économique britannique The Economist qualifiait dans un de ses articles l'Afrique comme un continent sans espoir. En 2012, le même magazine change d'opinion sur le continent noir et titrait « L'Afrique se lève ». En 10 ans, l'image du continent a changé. Pour capitaliser les acquis, la rencontre d'échange Africa Best Practice Forum est initiée. Le thème « Réformer les économies africaines pour une meilleure accélération de la croissance » a été l'axe principal de cette première édition. Pour que l'Afrique soit au rendez-vous de son émergence, des réformes doivent être faites dans des domaines spécifiques. Didier Akwete du comité d'organisation Africa Best Practice Forum.
De manière générale, il y a d'abord la réforme de l'administration. S'il n'y a pas une administration qui est efficace, il n'y a pas de développement, parce que l'administration est quand même au cœur des politiques économiques, des politiques sociales. Deuxièmement, le secteur privé est fondamental. L'État ne crée plus tellement de richesses. L'environnement des affaires, de manière générale, est un élément extrêmement important. Et puis j'insiste sur la qualité des ressources humaines est essentielle, et beaucoup de pays traînent encore en Afrique à réformer les systèmes éducatifs et à remettre les compétences, les qualifications au cœur des
La problématique du financement du secteur privé a été discutée au cours de ce forum. Les promoteurs de Coris Bank International disent proposer une approche innovante. Idrissa Nassar, président de Coris Bank International.
Pour que les petites et moyennes entreprises puissent participer, jouer pleinement leur rôle dans le développement des pays, il faut qu'ils accèdent au financement, il faut qu'ils aient accès au crédit. Ne pas distribuer du crédit à qui le demande, mais à qui le mérite. Et pour contourner le problème de garantie, nous demandons des parrainages ou des cautionnements solidaires. Lorsque vous êtes un jeune qui avait un projet que vous voulez mettre en œuvre et que vous n'avez pas de garantie à apporter, nous vous demandons de trouver une personne crédible qui vous connaisse bien et qui connaisse votre sérieux pour se porter caution. Si cette personne vient se porter caution, nous vous donnons le crédit sans autre garantie.
Pour le Premier ministre togolais, il est de bon ton de recenser les meilleures pratiques, mais il est indispensable de faire le même exercice pour les défis auxquels le continent doit faire face. Artem Seliagodi, Aoumé Zounou.
L'Afrique doit relever encore de nombreux défis pour prolonger et consolider cette trajectoire. Les meilleures pratiques, c'est-à-dire l'ensemble de méthodes et de techniques qui ont prouvé leur efficacité ailleurs dans le monde, droit des affaires et du commerce, fiscalité, stabilité juridique, etc., sont l'un des leviers de changement les plus puissants à adopter. Il est ainsi question d'approfondir un dialogue plus que jamais incontournable pour la prise et la diffusion de bonnes pratiques. Le langage des bonnes pratiques renvoie inexorablement à une meilleure gouvernance, pas seulement politique, mais surtout dans tous les domaines de l'économie, de l'expertise de nos forces vives. Une meilleure gouvernance plurielle est une force créatrice d'opportunités et de richesses que nous devons incarner dans les différents secteurs d'activité.
L'Afrique est vue aujourd'hui comme la prochaine frontière de croissance. Pour l'effectivité de cette projection, un travail préalable doit être fait. Nous retrouvons Didier Akwete du comité d'organisation.
Si on dit prochaine frontière de croissance, il faut forcément avoir les outils, les méthodologies, les pratiques qu'il faut pour répondre à cette demande mondiale de l'Afrique prochaine frontière de croissance. Deuxièmement, c'est que nos pays sont dans une phase importante de transformation économique, politique et sociale, et qui dit transformation dit également conduire cette transformation en s'inspirant de ce qui s'est fait ailleurs de bien. Et puis troisièmement, comme nous sommes dans une globalisation, une mondialisation, c'est bien de voir ce qui s'est fait ailleurs pour que l'Afrique puisse s'en inspirer et puis créer aussi finalement son propre modèle.
À l'issue de cette première rencontre d'Africa Best Practice Forum, des recommandations ont été faites, notamment faire de l'agro-business une des priorités de l'Afrique. Kay Lawson Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Camille Grosdidier qui vous accompagne pour le magazine hebdomadaire de l'économie. L'incertitude plane sur les perspectives économiques de la Guinée, selon le Fonds monétaire international. L'espoir est que l'éradication du virus à Ebola cette année permettra un vaste redressement de l'activité et un rebond de croissance du PIB en 2016. Mais voilà, la persistance de foyers épidémiques alliés à la chute continue des cours des matières premières pourrait réduire l'intérêt que les investisseurs portent au développement du potentiel minier de la Guinée, a averti le FMI fin février. La croissance et l'investissement pourraient aussi être affectés négativement par le retard continu des réformes structurelles, surtout si la lutte contre le virus à Ebola accapare les ressources administratives et si l'assistance technique prévue est retardée. Sur le terrain en Guinée, le secteur privé se mobilise pour tenter de débloquer la situation, car pratiquement rien ne bouge, affirme Sherif Mohamed Abdallah, président du groupe organisé des hommes d'affaires, le GOA.
Effectivement, vous savez, actuellement, même les différentes ambassades qui n'annoncent pas officiellement qu'il y a fermeture des frontières, déjà, il y a des réductions de visas et on n'a même pas de plaisir de voyager présentement en tant que Guinéen, parce que même dans les avions, quand on vous demande d'où vous venez, vous dites que vous venez de la Guinée. S'il y a d'autres places, la personne va se déplacer pour aller ailleurs. Donc la stigmatisation, ça c'est total. Ça ne nous fait pas du tout plaisir. Les pays aussi voisins, certains font de fermeture et d'ouverture des frontières. Tout ça là, ça pète sérieusement les activités économiques de notre pays. Nous, au secteur privé, nous sommes presque au rouge. C'est difficile pour nous.
Alors justement, étant donné cette crise due au virus Ebola, vous êtes allé vous-même jusqu'à vous organiser parce que vous avez remarqué que les camions ne passaient pas les frontières et vous avez donc décidé de distribuer des kits sanitaires aux frontières, c'est cela ?
Effectivement, nous avons fait des efforts énormes autour de ça parce que la frontière entre la Guinée et la Guinée-Bissau, c'est 12 heures de temps après le dépôt d'équipes sanitaires que la frontière a été ouverte. La frontière entre la Guinée et le Sénégal, c'est nous-mêmes qui avons adressé des courriers aux autorités sénégalaises pour qu'il y ait des transbordements au départ. Et puis après, il y a eu l'ouverture des frontières parce qu'il y a eu des dialogues entre les autorités des deux pays, ce que nous saluons d'ailleurs. Mais ça continue, nous continuons parce que présentement, là où on parle là, nous sommes encore à l'intérieur du pays, nous venons de la frontière entre la Guinée et la Guinée-Bissau, la Guinée et le Sénégal, parce qu'on a fait la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Donc nous, on est en train de sillonner tout le pays, on est en train de couvrir partout, puisque Ebola n'a pas de frontières. Nous aussi, on ne va pas faire de frontières. En tant qu'organisation crédible et présente en Afrique de l'Ouest, nous allons faire des efforts, mais nous demandons un appui sérieux, parce que les activités ne marchent pas. Nous, c'était l'appui de l'UNICEF, on ne pouvait pas évoluer. C'est l'UNICEF qui est en train de nous appuyer présentement, en nous donnant des kits sanitaires. Mais si les autres partenaires aussi acceptent de faire la même chose, ça nous fera grand plaisir, nous remettons les matériels pour qu'on puisse sensibiliser la population et remettre ces kits sanitaires.
Alors, ce sont les hommes d'affaires, en quelque sorte, qui se sont retroussés les manches, finalement. Vous évoluez dans quel domaine économique ?
Nous, on fait l'alimentation, nous faisons le commerce général, mais je vous dis qu'à l'heure actuelle, Ebola a fini de piller les activités économiques dans le pays. Mmh. Rien ne bouge.
Ça n'a pas redémarré ?
Nous, pas du tout. Nous avons des difficultés très sérieuses à l'heure-là. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons demandé l'appui des partenaires. UNICEF a répondu favorablement, nous dire merci, mais nous attendons aussi l'appui des autres partenaires parce que nous, on n'a pas d'argent présentement, les activités ne marchent pas. Si on ne nous aide pas, on ne peut pas faire la sensibilisation. Eh bien, merci, parce que la population accepte et comprend que la sensibilisation que nous faisons, nous sommes totalement neutres, nous faisons ça en tant qu'opérateur économique. La population adhère et la population accepte, et la population accepte de prendre les kits sanitaires et les utiliser. Cela est avantageux pour le pays, pour tout le monde.
Vous êtes combien au sein du GOA et quel type d'entrepreneur avez-vous ?
Toutes sorte, je peux vous dire que le secteur privé est représenté dans le GOA parce que je peux vous rassurer, les 90% des opérateurs économiques opérationnels en Guinée sont membres de notre organisation. Et nous en avons autant presque dans les pays ouest africains et nous avons des représentations partout dans le monde.
Que pensez-vous du prix du carburant? Est-ce qu'il a baissé à la pompe à Conakry ou pas?
Non, le prix des carburants, ça c'est insignifiant, ça c'est moqué de nous. Le prix des carburants a diminué de 1000 francs alors que le baril au niveau international c'est carrément la moitié. Qu'on nous donne la moitié, alors ou bien qu'on diminue les 40% avec la situation que nous vivons présentement. C'est difficile pour tout le monde, donc le carburant doit être diminué.
Chérif Mohamed Abdallah, président du groupe organisé des hommes d'affaires qui était joint par Nathalie Barge, a noté que selon l'agence Chine Nouvelle, les prix des produits pétroliers ont été revus à la baisse samedi en Guinée. Une diminution des prix qui faisait partie d'une plateforme revendicative des centrales syndicales guinéennes pour alléger le panier de la ménagère dans le pays. Camille Grosdidier, je vous accompagne pour le magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Des smartphones et tablettes africains conçus et fabriqués par des Africains pour des Africains, ce n'est plus un rêve, mais bien une réalité grâce à des start-up maliennes et congolaises. Jacques Aristide.
En effet, Camille, au Mali, après le smartphone YouSmart, mis en vente en 2014, la start-up malienne Yatco annonce l'arrivée prochaine d'une tablette. Aliou Yatasei, directeur général de la start-up Yatco, s'est fait connaître au Mali en tant que créateur du YouSmart, un smartphone bon marché commercialisé depuis mi-2014. Il a récemment annoncé l'arrivée prochaine d'une tablette. En lançant en avril 2014 son mobile, il entendait mettre à la disposition des populations des smartphones aussi bon marché que de bonne qualité, très efficaces et répondant aux normes internationales. Pour l'instant, son produit est seulement commercialisé sur le marché malien. Entre-temps, à Abidjan, l'entrepreneur congolais Vérone Mankou vient d'ouvrir une boutique VMK, la société avec laquelle il a lancé la première tablette africaine. Elle est entièrement conçue et construite par des Ivoiriens. C'est la preuve qu'il y a de l'ingéniosité en Afrique, a souligné Vérone Mankou. Le VMK Store d'Abidjan, qui emploiera à terme une dizaine de personnes, s'est ajouté à la première boutique de Brazzaville, ouverte en partenariat avec l'opérateur sud-africain MTN. VMK prévoit d'élargir ses implantations à 5 pays de la région. D'ici à la fin de 2015, un deuxième magasin est prévu à Abidjan avant l'ouverture de 3 autres VMK Stores à Kinshasa, à Douala et à Dakar.
Ici Washington, Camille Grosdidier pour cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie. En France, l'ONG CCFD Terre Solidaire a invité 35 acteurs de la société civile des pays en développement à venir témoigner cette semaine dans toutes les régions de France. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de sa campagne 2015 en faveur de projets de lutte contre la faim. Parmi ces invités, 8 Africains qui vont évoquer lors de leur prestation les causes structurelles de la faim notamment. D'autres précisions avec Philippe Mayol, chef du service Afrique au CCFD Terre Solidaire.
Quand on analyse les situations locales qui expliquent les situations d'insécurité alimentaire en Afrique, on se rend compte que très souvent, les causes ne sont pas simplement des causes, je dirais, immédiates de faible production, par exemple, mais ce sont des causes qui sont liées à des dysfonctionnements ou des absences de politiques publiques ou à des problèmes plus profonds dans la société. C'est ce qu'on le voit, par exemple, au niveau des enjeux fonciers. Beaucoup de paysans africains vivent dans une insécurité foncière et cette insécurité foncière peut être lié à des mauvaises politiques publiques d'aménagement du territoire ou peut être lié à des situations de conflits locaux. Donc tout notre travail, c'est d'essayer de comprendre ces causes qui expliquent pourquoi dans certaines régions il y a des problèmes de faim et puis après de voir avec des organisations locales avec qui on travaille comment agir sur des fois une dizaine d'années pour remédier ces causes et faire en sorte que l'avenir de ces personnes soit plus serein.
Les questions foncières, la problématique porte également sur les titres de propriété.
La problématique porte sur les titres de propriété, oui, dans une certaine mesure, mais en même temps, on est dans des systèmes en Afrique qui sont très très différents de la manière dont la propriété s'est conçue et s'est organisée dans les pays occidentaux, où, à l'heure actuelle, on est dans un mixte entre un régime traditionnel de gestion de la terre qui se basait, dans certains cas, sur des propriétés collectives, d'autres, c'était des chefs traditionnels ou des rois locaux qui possédaient la terre. Et il y a le régime de gestion de la terre qui est hérité des colonisations françaises et britanniques principalement, qui a mis en avant cette notion de propriété individuelle privée. Et donc au niveau de l'Afrique, il y a cette confusion entre ces deux droits se chevauchent, et de fait ça crée énormément de conflits et d'incompréhensions et de situations d'insécurité pour les paysans. Donc l'enjeu, c'est comment sécuriser l'accès de la terre aux paysans. Dans certains cas, ça va passer par la propriété privée. Dans d'autres cas, ça va être comment faire en sorte qu'une communauté dans son ensemble puisse avoir les droits sur un ensemble de terres, même si après, la terre n'est pas répartie entre chaque famille. Donc tout dépend du contexte et l'Afrique est très diverse. Donc à chaque région, il y a une spécificité historique et une spécificité contextuelle. Donc voir comment travailler cette question en fonction de ces paramètres.
Pourquoi la campagne 2015 du CCFD Terre Solidaire met l'accent sur une gestion de la terre respectueuse de l'environnement ?
Le CCFD Terre Solidaire travaille depuis plusieurs années, en tout cas sur l'Afrique, sur ses enjeux fonciers et sur cette question de comment utiliser cette terre de la manière la plus écologique possible pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse produire encore longtemps. Nous sommes aussi une organisation qui promouvons la transition écologique, sociale, enfin, toute cette articulation entre le territoire, l'écologie et l'économie. Comment imaginer d'autres modèles de produire qui soient en faveur de l'agriculture familiale et non en faveur d'acteurs internationaux, comme ceux qui sont mobilisés sur le niveau des accaparements de terres. Et enfin, en décembre 2015, dans la région parisienne, il va y avoir la conférence internationale COP21, qui va travailler sur tous les enjeux climatiques au niveau mondial. Donc pour nous, c'était une bonne occasion aussi de remettre en avant ces questions de la gestion respectueuse de la terre en prévision de cette COP21.
Monsieur Philippe Mayol, chef du service Afrique au CCFD Terre Solidaire, il était joint en France. Ici Washington, le café éthiopien a été classé le meilleur au monde par un groupe international de connaisseurs de café, ce qui n'a guère surpris, sa réputation datant de longtemps. Des précisions avec Morgan Guiriec.
Les experts internationaux du café sillonnent sans relâche la planète pour trouver la meilleure tasse à déguster. Ils reviennent toujours en Éthiopie, où selon des importateurs comme Morton Wanesgard, des conditions climatiques idéales permettent de produire des grains de café de haute qualité. Vous avez différentes variétés anciennes appelées héritage éthiopien. Elles sont cultivées dans des endroits où la terre est parfaite, l'altitude est parfaite et les microclimats sont vraiment appropriés pour le traitement du café, comme le séchage, explique Morton Wanesgard, un importateur de café. Pour trouver les meilleurs grains, il faut se fier au goût, littéralement. Un processus qui inclut plusieurs sessions d'essais de torréfaction et de dégustation, permettant de mettre à l'épreuve du café provenant de différentes fèves pour les classer et ensuite leur fixer un prix. Mais avant même que les experts internationaux parviennent à déguster le produit fini, les grains de café sont analysés par des petits laboratoires spécialisés. Après que le café est livré au laboratoire, nous évaluons sa qualité dans les moindres détails. Puis, nous évaluons le niveau d'humidité et nous sélectionnons certaines fèves pour analyse. Après, on peut moudre le grain et déguster des échantillons. Et finalement, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de fèves défectueuses, explique la technicienne Hélène Assefa. Ce processus est très long et difficile, renchérit Moubarik Abaouli, du même laboratoire, le triage des fèves se faisant manuellement. Néanmoins, tous ces efforts en valent la peine, puisque la réputation du café éthiopien est telle qu'il s'exporte vers plus de 120 pays et rapporte au pays plus de 840 millions de dollars par an.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivi sur VOA Afrique.